Donc bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je vous invite à retrouver l'Épître aux Romains, chapitre 12. Et je vous invite, avant que nous lisions le texte de ce jour, qui sera du verset 9 au verset 16, à écouter le texte suivant. Il n'est pas bien d'être un gros égoïste qui cherche son plaisir aux dépens des autres. Au fond, c'est ce que je suis. Mais je porte un masque. Je fais semblant d'aimer, d'être quelqu'un de bien. Alors, ceux qui sont mes proches reçoivent bien peu d'affection et peu de considération. Pourquoi me casser la tête pour autrui? Je vais à reculons pour remplir mes obligations. Froidement, je ne crois qu'au matérialisme et me consacre au service de mes passions. Je n'attends rien de l'avenir et je ne supporte pas de souffrir. Prier, à quoi bon? Je me détourne des malheureux. Je n'ai ni argent, ni amour à donner. Qu'ils aillent tous au diable. Alors je me tiens loin des autres. Peu m'importe leurs joies et leurs peines. Je suis seul et il n'y a personne pour me contrarier. J'ai de l'ambition, je suis sûr de moi. Au fond, je suis un gros égoïste. Est-ce que ce texte vous choque quelque part? Un peu. Moi, je dois confesser qu'il reflète ici et là certaines choses du domaine de ma vie. Est-ce que, du point de vue de Dieu, cette vie qui est exposée là, qui s'expose là, est une vie qui est bonne? Est-ce que c'est une vie qui est agréable à Dieu ou que Dieu peut agréer? Non. Est-ce qu'il n'y a rien de mieux qui peut être fait que ça? Certainement. Dieu demande la repentance. Il demande d'orienter résolument nos vies vers lui. Et nous avons un rendez-vous. Il nous donne un rendez-vous à la croix de Golgotha, la même où Dieu a déversé sa juste colère contre nos péchés. Là où son cher fils a donné sa vie subissant la colère de Dieu à notre place. Là où on trouve un parfait et un complet pardon. Là où l'on donne sa vie et son cœur à son Sauveur et Seigneur. Là où commence une nouvelle vie animée par l'Esprit de Jésus ressuscité. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Romains 4, versets 7 à 8. Plus loin. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. Mais pas une dette envers notre propre nature pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 12 à 15. Alors, si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, comment vivre pratiquement une vie qui lui soit agréable, qui soit agréable et agréée par notre Père Céleste? Au chapitre 12, dans les premiers versets, nous avions un cadre là, avec ces deux versets qui nous étaient fixés. Je vais lire ces versets pour nous, dans la transcription de Alfred Kuhn, qui s'appelle « Parole vivante », et qui est une traduction enrichie, on peut l'appeler comme ça. Voici, Romains 12, 1. « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le monde, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes, les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de connaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Romains 12, 1 et 2, nous avons vu la semaine dernière les versets qui suivaient. Il a appris là qu'il faut savoir être, avoir l'humilité, la conscience, avec humilité, la conscience que Dieu nous a placés dans une communauté, l'Église de Jésus, une communauté là s'y trouvent des frères et des sœurs en Jésus. Et pour eux, nous avons un rôle à jouer, nous avons un fonctionnement dans cette Église qui est le corps de Christ, un rôle qui est unique et qui est important. La communauté. Et maintenant, comment vivre concrètement et pratiquement dans la communauté, avec les frères et sœurs? Quelles sont les relations fraternelles qui sont agréables à Dieu? Alors, on va lire maintenant le vrai texte de Romains chapitre 12 versets 9 à 16 par son inverse. Romains chapitre 12 verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. On va s'arrêter là. Je vous propose maintenant de rebalayer tous ces versets, de les parcourir à nouveau. Je vais proposer un petit commentaire et après nous pourrons avoir un moment de méditation et de prière personnelle par rapport à toutes ces applications. C'est pas, des fois, on recherche dans la parole de Dieu comment la comprendre, comment l'appliquer. Et là, nous avons toute une série d'applications de savoir comment on doit être, comment on doit se conduire dans le royaume de Dieu. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. C'est la version de second 21 que je lis. Donc de l'amour, il s'agit de l'amour agapé. Agapé, c'est le mot grec qui est utilisé. Le mot amour a une multitude de sens en français. Avec le même mot, on aime son conjoint, on aime ses proches, on aime les macaronis, et on désigne même les relations sexuelles avec un seul mot, amour. Mais dans le texte grec, ce mot-là est traduit de différentes façons. Et là, il s'agit de l'amour de façon absolue. L'amour qui se donne. L'amour que l'on trouve dans cette phrase, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que l'amour soit sans hypocrisie, ou qu'il soit sincère. Aimer, il s'agit de l'hypocrisie, là c'était la façon dont on jouait à l'époque dans la Grèce antique, dans les théâtres. C'est un déguisement, un masque, un rôle qu'on joue. Et donc il s'agit d'aimer sans porter de masque, sans faire semblant, sans jouer la comédie. Aimer d'un amour authentique, d'un amour qui est vrai. J'avais projeté quelques photos la dernière fois de Alain Modersé, il a une belle illustration qui parle de cet amour vrai. C'est deux petits garçons et une petite fille qui sont assis sur un banc et le garçon dit à la petite fille « Je t'aime ». Et la petite fille répond « Comme les adultes ?» Et lui répond « Non, pour de vrai ». L'amour sincère. Un amour pour de vrai. Ayez le mal en horreur. Avoir le mal en horreur. Le mal, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est méchant. C'est ce qui fait mal. Avoir en horreur. Détester le mal. Et à l'opposé, s'attacher au bien. Coller au bien. Coller à ce qui est bon. Le bien, c'est le bon. C'est le bon, c'est ce qui est bon, agréable et parfait du verset 2 du chapitre 12. Toutes ces instructions, toutes les instructions qui vont suivre sont des déclinaisons concrètes et pratiques de cet amour qui nous est demandé pour nos frères et sœurs. Il nous est demandé de les aimer tout simplement, sans porter un masque, tel que l'on est, avec d'un côté le mal en horreur et de l'autre en recherchant toujours ce qui est bien pour eux et devant Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Et donc, cet amour fraternel, c'est le mot philéo, dans le grec, qui est différent de l'autre mot, qui est plus soft, disons-le. Nous sommes ainsi encouragés à aimer nos frères et sœurs chrétiens avec la même affection que nous pouvons porter aux membres de notre famille que nous aimons, à nos proches, à nos parents, à nos enfants que l'on chérit. Et le texte, l'apôtre dit ici d'avoir cette même de cet même amour filial pour nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Rivaliser, chérir nos frères et nos sœurs dans la foi. Rivaliser d'estime réciproque. Dans la version seconde, c'est encore un petit peu moins facile à cerner. user de prévenance réciproque. C'est l'idée ici de, vous savez, un général d'honorer, hein, de s'honorer les uns les autres. L'idée d'un général d'armée, bon, vous voyez les généraux quand ils sont au milieu des militaires, voilà, on se met au garde à vous. Et ce général, vous imaginez qu'il voit et qu'il va pour vous ouvrir la porte quand vous allez sortir de la pièce, ou qu'il vient pour vous ouvrir, ou qui passe devant vous pour vous ouvrir le chemin. J'étais à Paris la semaine dernière. Dans les rues, il y avait tout à coup des motards qui sont arrivés là avec le gyrophare. Mais qu'est-ce qu'ils font de cela? Ils poussaient, ils faisaient pousser les uns et les autres. Et après, il y a toute une colonne de voitures de police avec des gyrophares qui ont suivi. Et je me suis dit, ah, il y a quelqu'un d'important qui vient. Et c'est cette idée d'être que le ministre, ce soit non pas celui qui est dans la voiture derrière, mais c'est celui qui est sur la moto devant et qui fait le passage. Poussez-vous, il y a quelqu'un d'important qui arrive, c'est mon frère, c'est ma sœur. Rivaliser d'estime réciproque les uns pour les autres. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Le zèle, c'est l'empressement. Et la paresse, c'est l'idée de traîner, d'être lent. Voilà. Traîner. Vous savez, vous comprenez ce que ça veut dire. Faire les choses en traînant. Être fervent d'esprit, c'est être bouillant pour les choses spirituelles. Être bouillant pour les choses spirituelles. Servez le Seigneur. Le mot servir ici, c'est le mot de servir comme un esclave. Et le Seigneur, c'est celui qui a toute autorité. Aujourd'hui, dans notre monde, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de prince devant lequel on plie le genou quand on s'approche de lui. Ça n'existe plus, ces choses-là. C'est difficile à comprendre, donc, ce que l'apôtre veut dire quand il dit « servez le Seigneur ». Imaginons que notre journée de travail ne fasse pas 8 heures et qu'on ne travaille pas 5 jours par semaine, mais que notre journée de travail fasse 24 heures tout le temps, à plein temps, 7 jours sur 7. C'était ça un petit peu les conditions des esclaves de l'époque. Et quand il s'agit de servir le Seigneur, il s'agit de le servir 24 sur 24. Donc, vous bossez pour votre patron tout le temps. Le titre de Seigneur, c'est plus grand et plus élevé que le titre de César de l'époque. Ce mot Seigneur est utilisé pour traduire le mot éternel dans la version grecque de la Septante, à la place de nous, quand on trouve dans notre version le mot éternel. Dans la version grecque de la traduction du Nouveau Testament de l'époque, du temps de Jésus, c'était le mot « Seigneur » que l'on trouvait. Servez le Seigneur. De nouveau, il y a une pensée que je trouve personnellement un peu toxique. On est dans une mentalité du self-care, de prendre soin de soi. C'est un petit peu la grande idée pour chacun. On doit prendre soin de soi. Il faut se ménager. Et ce qui est paradoxal, c'est que par ailleurs, on peut se donner à fond. On peut se donner à fond pour faire toutes sortes d'activités physiques difficiles, faire des compétitions d'une chose de l'autre, ou remporter des défis, sauter à l'élastique en parachute, je ne sais quoi d'autre. Mais ça, c'est accepté si on le fait pour soi-même, pour sa propre satisfaction. On peut se donner à fond. Mais pour les autres, non, c'est pas bien vu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu transpires pour quelqu'un d'autre? Mais c'est bizarre ce qu'il fait lui. Notre self-care nous apprend cela aujourd'hui. Et je trouve que c'est quand même loin de ce verset. Ayez du zèle, non de la paresse, servez. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Ce verset nous encourage à être investis, selon les possibilités que nous avons, bien entendu, pour le Seigneur. Et pourquoi? parce qu'il est merveilleux et parce qu'il en est digne. Et c'est vrai que s'il a promis le repos, c'est le repos pour mes âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, hein, et le repos dont il est question. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de corps, et je donnerai du repos pour vos âmes. Mais on a besoin de servir le Seigneur, et on a besoin de le faire avec empressement. Que ce soit pour les activités de l'Église, le rôle qu'on a dans l'Église, que ce soit dans nos activités professionnelles, on est à temps plein pour le Seigneur. Pas seulement quand on est dans l'Église, aussi quand on est dans toutes nos activités familiales, professionnelles, on sert le Seigneur et c'est merveilleux. Alors, est-ce une bonne chose? Si c'est une bonne chose, pourquoi est-ce une bonne chose? Verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patient dans la détresse et persévérez dans la prière. Nous sommes au verset 12 et voilà ce que l'apôtre a écrit quelques chapitres avant, au verset Romains chapitre 5, verset 1. Verset 1 à 5, je lis ceci. Étant donc justifiés par la foi, déclarés justes devant Dieu, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a bien compris ça. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions, nous sommes fiers de l'espérance que nous avons, de la gloire de Dieu, de participer à la nature divine, dit Pierre un petit peu plus loin. Être participant à la gloire de Dieu, c'est une espérance qui est très élevée. Il continue, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, chose difficile, produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La victoire dans l'épreuve ici, c'est l'idée de résister à un test. Demeurez fidèle malgré les difficultés. Soyez patient dans la détresse. Demeurez fidèle. Est-ce que vous avez passé le bac, cette épreuve du bac, est-ce que vous l'avez eu? Et quand on réussit le bac, on a les études universitaires qui s'ouvrent à nous, on continue dans la suite. Et là, il y a l'idée de ce test par lequel tous les chrétiens passent, c'est le test de la sécheresse. Quand le soleil tombe sur une plante et qui va mettre en évidence est-ce que la racine est profonde ou pas, est-ce que la plante va sécher faute de racine ou est-ce qu'elle va résister au test. Et donc, nous avons des tests dans notre vie, des détresses et, dans lesquelles nous devons tenir ferme, persévérer et voilà, traverser et valider ces épreuves de notre foi. Et Dieu est fidèle et juste, nous dit 1 Corinthiens 10:13. Dieu est fidèle et juste pour nous aider à les traverser, à les supporter. Et il prévoit la façon dont nous allons en sortir aussi. J'estime que les détresses du temps présent ne sauraient être comparées avec la gloire qui sera révélée pour nous. Romains chapitre 8, verset 18. Et si nous sommes fidèles dans les épreuves, nous avons cette certitude que les promesses de Dieu, l'espérance chrétienne est véritable et que nous allons vraiment un jour être dans la présence même de Dieu. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez donc patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Qu'est-ce qui va nous encourager à prier? C'est un défi, alors on va beaucoup travailler la prière l'année prochaine, mais on a déjà commencé. On aura notre week-end d'église qui sera consacré à cela. Est-ce que l'on prie pour recevoir ce que l'on demande? Peut-être souvent, bien sûr, mais peut-être que la bonne façon de prier, c'est simplement d'imiter Jésus. Jésus était un homme de prière. Et prière est la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui est bon, agréable et parfait. Et nous sommes encouragés à persévérer dans la prière, même si l'on ne voit pas de résultat. Ah, Jésus nous a enseigné à persévérer, comme lui a persévéré. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patient dans les détresses, persévérez dans la prière, est-ce une chose agréable? Une bonne chose, certainement. Verset 13, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Donc voici une autre façon de manifester un amour sincère, c'est d'ouvrir le portefeuille. Ouvrir le portefeuille. Ah, là, c'est un point difficile, bien souvent. On est souvent réticent à le faire parce que on a peur de se faire avoir. Et c'est vrai qu'en France, il y a une très bonne couverture sociale et qui est généreuse pour tout le monde. On a peur de se faire avoir et c'est compréhensible, mais il n'empêche que l'Esprit Saint est là pour nous conduire dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et il y a aussi de pourvoir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin et particulièrement des frères et des sœurs dans la foi. On a parlé de l'église persécutée il y a un moment. On ne peut pas se tromper en donnant, en faisant des dons pour l'église persécutée. On peut avoir la certitude que l'aide que l'on transmet sera bien utilisée et qu'elle ira à des gens qui en ont besoin. Si on regarde également l'église du Sud, les besoins de nos frères et de nos sœurs, on ne peut pas se tromper non plus. Et il se trouve qu'en ce moment, ce sont les mêmes personnes. Il y a beaucoup de frères et de sœurs pauvres dans l'église de Jésus. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité avec empressement. Exercez l'hospitalité, c'est poursuivez l'hospitalité. Hein, persécutez-la. Non, poursuivez l'hospitalité. Exercez-la avec détermination. Il y a là l'idée de quelque chose d'intentionnel. Rechercher à accueillir, ne pas attendre que l'on frappe à la porte, mais être intentionnel et invité. On a l'exemple de Lydie, de Philippe, qui a pressé les apôtres Paul et Silas pour qu'ils viennent rester, non pas dans la rue, mais qu'ils viennent rester dans sa maison, à elle. Avez-vous déjà exercé l'hospitalité? Cela demande des efforts, cela dérange notre quotidien, c'est certain. Cela coûte aussi. Mais c'est une vraie bénédiction. C'est une vraie bénédiction et j'encourage toujours à, si vous avez la possibilité, d'inviter. On reçoit souvent des personnes ici, des missionnaires, ou sentez-vous libre de dire « Est-ce que je peux recevoir Françoise Pédot chez moi ?» Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est pas réservé toujours aux mêmes que d'exercer l'hospitalité. Et c'est une vraie, vraie, vraie bénédiction. Quand on n'a pas de maison, eh bien on peut aussi avoir un cœur hospitalier, recevoir les gens, être prêt à les écouter et avoir de la place pour eux dans notre cœur. C'est aussi une autre forme d'hospitalité. C'est aussi une bonne recommandation. Bénissez ceux qui vous persécutent, verset 14. Bénissez et ne maudissez pas. Alors là, on a, mais qu'est-ce que ça fait là dans les relations fraternelles? Mais on peut être persécuté aussi par ses frères et sœurs dans la foi. Et on a vécu ça ici dans la même, dans cette église. Hein? Cela s'est produit. On vous poursuit parce qu'il y a tel ou tel point de compréhension de la parole de Dieu, vous ne comprenez pas tout à fait la même chose. Et voilà, ça ne va pas. Ça fait des problèmes, des histoires. Bénissons. Bénissons inlassablement et faisons le bien. C'est un verbe ici. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. C'est un des rares verbes qui sont à l'impératif dans le texte original grec. Là, c'est quelque chose de très important sur lequel l'apôtre insiste. Bénissez ceux qui vous persécutent. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ou si ça semble concerner nos relations avec les non-chrétiens. Le texte inversé de tout à l'heure disait, je me détourne des malheureux, je n'ai ni argent ni amour à leur donner, je me tiens loin des autres, peu importe leur joie et leur peine. Les mariages, les naissances, les réussites rendent heureux. Et le bonheur a ceci de particulier, qu'on a besoin de le partager. On a besoin qu'il y ait d'autres personnes qui se réjouissent avec nous. Surtout les personnes que l'on aime. Et également, les décès, les échecs, les rejets sont difficiles à vivre sans avoir quelqu'un à côté de nous pour partager cela. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous ne nous privons pas de ces occasions de célébrer notre humanité commune. On reparlera, Dieu voulant, de ça la semaine prochaine avec la fin de notre texte jusqu'au verset 21, jusqu'à la fin du chapitre. Verset 16, « Vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne vous prenez pas pour des sages. » Ça ressemble au verset 3 qu'on a lu la semaine dernière. « Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à aucun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Cette recommandation parle de l'humilité qui est un passage obligé pour la sanctification. Hein? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voulons-nous bénéficier de la grâce de Dieu? On a tous infiniment besoin de grâce dans nos vies. On a besoin de la grâce de Dieu. Le chemin, c'est l'humilité. Le bon chemin. Le mauvais chemin, c'est l'orgueil. On dit qu'il y a 4 ou 5 racines de mal dans le cœur humain. J'en avais retenu 3. Il y en a une qui est la crainte des hommes, l'autre qui est de se prendre pour le Messie, et l'orgueil en est une qui est à une bonne place. L'orgueil est une chose infecte dont on doit se débarrasser à tout prix. Dans nos vies, de toute forme d'orgueil. C'est tellement profondément enraciné en nous et cela nous fait un mal terrible. La première victime de l'orgueil, c'est l'orgueilleux. C'est la première victime de l'orgueil, c'est celui qui l'a en lui. Et nous avons 4 recommandations, verset 16, qui combattent l'orgueil. Vivez en plein accord les uns pour les autres. L'orgueil, c'est « j'ai raison, je sais mieux que toi, au final je fais ce qui me plaît ». n'aspirez pas à ce qui est élevé, l'orgueil du paraître devant les autres. Pourquoi on veut se monter? Et devant qui on veut se monter? C'est devant Dieu. On fait ça devant les autres, quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Laissez-vous attirer par ce qui est humble, et là-haut aussi, le modèle d'humilité, c'est Jésus. Il a dit, je suis doux et je suis humble de cœur. C'est ça qui nous plaît en Jésus, comme Jésus. Ne vous prenez pas pour des sages. Il y a beaucoup de versets, des proverbes qui rappellent ça. L'orgueil de la suffisance, l'orgueil de l'esprit de supériorité, l'orgueil qu'on est pensé à maintenant, au stade où j'en suis. Ça y est, c'est moi, je suis sage, je sais les choses et je n'ai besoin de personne, surtout pas d'autrui. Nous sommes arrivés à la fin de notre passage. Je vous propose 5 minutes de prière. Je vous laisse le temps de relire tranquillement ce passage dans vos Bibles maintenant. Et de souvenir de tout cela, hein, sachant que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, et qu'il est capable de nous transformer si on se livre complètement à lui pour cela. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Yeah.